Bienvenue dans un nouvel épisode de MC Talks. Et oui, c'est Damien cette fois-ci qui est piqué le micro de Marvin. Vous aviez découvert mon histoire dans l'épisode 4 du podcast. J'ai revu Marvin il y a quelques jours et il m'a présenté en avant-première la conversation que vous allez écouter aujourd'hui. J'y ai découvert une histoire incroyable, celle de Victor, 32 ans. Il a déjà atteint son premier palier d'indépendance financière. En gros, il pourrait déjà vivre sans travailler. Vous allez découvrir ce qui l'a mené des banques d'affaires ou encore de la surconsommation à la retraite et au minimalisme. Aujourd'hui, il sort son livre « La retraite à 40 ans, c'est possible ». Je vous laisse découvrir sa discussion avec Marvin. Quant à moi, vous pouvez me retrouver dans l'épisode 4 du MC Talks. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles, ça me fera super plaisir et en plus ça donnera de la force à Marvin pour qu'il puisse continuer ses merveilleux podcasts. Bonne écoute.
Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Alors, du coup, je m'appelle Victor, j'ai 32 ans et qu'est-ce que je fais sur Terre ? Là, aujourd'hui, j'aide les personnes à se séparer de l'argent pour qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent faire, c'est-à-dire des projets qui ont du sens. Parce que moi, je suis persuadé que même si mon livre s'appelle « La retraite à 40 ans, c'est possible », une fois qu'on est à la retraite, je pense que finalement, on fait plutôt des projets bienveillants pour les autres. Et peut-être pour terminer l'intro, moi, je suis ingénieur de formation, double diplôme école de commerce. Et après, j'ai passé 10 ans dans les startups et 10 ans à investir.
Donc là, c'est marrant déjà le paradoxe, je suis diplômé d'une école de commerce, ingénieur, et j'aide les gens à se séparer de l'argent, alors qu'on pourrait croire que quand on fait ce genre de diplôme, c'est pour aller vers l'argent et pas s'en séparer. J'aime bien revenir dans le passé, peut-être explique-nous d'où ça vient ce fait de se séparer de l'argent alors que tu as fait une école de commerce.
Ouais, c'est un peu ça. Bah, d'ailleurs, j'ai fait l'école de commerce pour aller vers l'argent à l'origine. Hein. Donc, au tout début, d'où ça vient En fait, je pense que ça vient d'une. Je pense que tu l'as lu. Ça vient d'une enfance où, en fait, si tu es assez vite. Moi, j'étais dans une école élitiste. En fait, j'étais aspiré par mes sœurs, qui étaient vraiment exceptionnelles en cours. Et dans une école élitiste où il n'y avait que des fils de diplomates, des personnes avec des très très hauts revenus, etc. Et moi, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, je n'avais pas les moyens d'être dans cette école-là. Et du coup, pendant toute mon adolescence, tu sais, c'est ces moments où. Au début, ça va, tu comprends pas trop l'argent, mais après, vers 12-13 ans, tu te dis, bon, en fait, j'ai pas le même niveau de vie que mes potes. Après, quand tu commences à sortir avec des filles, tu te dis, merde, finalement, je peux même pas payer mon resto, mon plat au resto, moi, j'y arrive pas. Et eux, c'était un peu nos limites. Donc, moi, ça revient de loin, tu vois. Donc, ça a un petit peu commencé comme ça. Et du coup, après, ça a un peu dirigé mes études. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma condition et un peu m'élever socialement, quoi.
Ok, mais d'ailleurs, dans ton livre, tu dis que quand tu étais plus jeune et que tu étais dans ces écoles élitistes, tu te sentais nul. Ça m'a vraiment marqué. Tu dis souvent, je sais pas si tu le dis souvent, mais j'ai l'impression que tu l'as dit souvent, peut-être c'est mon biais de négativité, mais j'ai l'impression que tu dis, je me sens nul et je pense qu'encore aujourd'hui, peut-être tu te sens nul. Est-ce que ça remonte à ce moment où tu n'as pas d'argent par rapport à tes collègues, par rapport à tes amis?
Ouais, ça remonte à ça et même un petit peu avant. En fait, comme beaucoup, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Et je pense que chez moi, ça fait un traumatisme. Enfin, c'est clair que ça fait un traumatisme. Et en gros, j'ai carrément oublié comment lire et comment écrire à ce moment-là. Gros trauma dans ma vie, ouais. Assez hard. Et en fait, j'ai toujours été en galère, du coup, scolairement, si tu veux. Parce que quand tu te réveilles du jour au lendemain... Alors, je lis en souriant aujourd'hui parce que ça sert. Donc, écrivez un livre. Si vous voulez écrire un livre, c'est bien parce que ça permet d'exorciser un petit peu tout ça. Maintenant, j'ai pas mal de recul avec ça, mais en fait, moi, j'ai vachement galéré dans mes études. Enfin, je pense que je comprenais assez vite les choses, mais en réalité, c'était compliqué. Et du coup, pendant toute ma scolarité, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai toujours eu un train de retard. Bon, j'ai jamais redoublé, mais peut-être que j'aurais dû redoubler d'ailleurs, peut-être que ça aurait été mieux pour moi. Et du coup, en fait, je me suis jamais senti à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Et après, j'ai toujours été comparé avec. Donc, j'ai 3 sœurs. En l'occurrence, quand on fait un peu de stats, on se dit, zut. Quand il y en a une de mes sœurs qui est bonne, ça va. Enfin, 2 qui sont excellentes, ça va. 3 qui sont excellentes, tu te dis, le 4e, il va être excellent. Tu vois. Et moi, toute ma scolarité, ça a été, c'est Victor, c'est le dernier des Laura. En fait, les profs, quand ils faisaient l'appel au début de l'année, tu vois, Il disait, ouais, Victor Laurent, ah, mais vous êtes le frère de Marie ou de Daphné ou d'Anaïs. Moi, je faisais oui. Et le prof, tout content, un peu pour me féliciter, il disait à toute la classe, bah, regardez, il va être premier de la classe et ça va être le meilleur. Parce que toutes mes sœurs avaient 19 de moyenne. En gros, elles avaient vraiment 19 de moyenne tout le temps. Très stable. Hein, tu vois, nous, c'était stable chez nous. Sauf que moi, c'était pas du tout ça. Et moi, j'étais au fond de la classe. Tu vois, je galérais avec mes propres problèmes. Bon, et puis, je sais pas, j'étais un mec, c'est peut-être ça aussi. Hein, tu vois, mais en gros, j'ai toujours eu cette sensation d'être. Bah, si tu veux, en deuxième ou troisième division et d'être le mec qui galère, quoi. Donc, ça m'a pas quitté. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai pris l'habitude de vraiment encaisser les coups, si tu veux, d'être assez résilient et de finalement, j'ai un peu jeté l'éponge, mais pas tout le temps. Et ce qui fait que j'ai un peu perduré, ce qui fait que sur le temps, en fait, tu te rends compte que tu peux rattraper les autres. Puis vu que tu es tellement habitué, en fait, à avoir un peu une vie de merde, c'est un peu le cas, tu vois, bah, à force, bon, bah, toi, on te propose une vie de merde, des tafs de merde, tu dis oui, puis tu y vas, et puis tu finis par y arriver, tu vois. Donc, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui, tu vois.
Quand tu dis j'ai jeté l'éponge, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? T'as arrêté d'espérer que tu serais comme tes sœurs, aussi bon à l'école, etc., c'est ça ?
Ah, mais clairement, si tu veux. Enfin, moi, le niveau... En fait, au début, j'essayais... Enfin, on était quand même assez énormément cadrés, donc je remercie l'école, tu vois, donc elle me cadrait un peu, tu vois. Mais, il y a des moments... Je faisais pas ce qui était nécessaire. Donc, même les gens qui sont très bons autour de nous, ils travaillent beaucoup. Et puis moi, j'étais là, bon, ok, ça marche pas, je vais y arriver. Et je faisais d'autres trucs. Donc moi, je me suis un peu évadé dans tout ce qui était informatique déjà à la base. Donc, quand j'avais, je sais pas, 10 ans, 12 ans, je commençais à programmer mes premiers sites, mes premiers trucs, parce que bon, c'était un peu à côté, c'était mon univers sur mon ordi et tout. Donc, je suis passé par autre chose, quoi.
Et tu te souviens comment tu as découvert cet environnement-là, l'informatique ? Même tu parles de faire de la TVA à 12 ans. Alors ça m'a marqué dans ton livre. Tu t'aimais la TVA à 12 ans. Alors là, comment on se retrouve dans un stage-là ? Parce qu'à 12 ans, je connaissais pas la TVA.
En fait, si tu veux, je pense que quand tu galères un peu, quand tu t'épanouis pas dans ce que les autres font et que tu galères un peu en cours, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose où je peux m'épanouir, tu vois ? Et moi, en fait, je suis un peu tombé, je pense, dans l'informatique grâce, dans un premier temps, aux jeux vidéo. Et je voulais jouer, en fait. Et nous, on a eu la chance d'avoir un des premiers Mac chez nous. Alors, pas le premier modèle, mais le deuxième. Et le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, pour jouer sur un ordinateur, c'était hyper galère. En vrai, c'était très compliqué de jouer sur un ordi. Il fallait avoir des disquettes. Alors, moi, j'ai pas que disquettes. Hein. Donc, un truc qui se met dans un ordi qui a, je crois, 4 MO. Donc, en gros, votre téléphone, il a, je sais pas, une pièce entière de disquettes pour que ça fonctionne. Enfin, bref. Et avant, c'était hyper galère de jouer aux jeux vidéo. Et moi, je voulais tellement jouer parce que ça m'intéressait que finalement, bon, bah, j'ai commencé à creuser un peu l'ordi. Puis après, j'ai cassé les ordinateurs. Donc, il fallait réparer avant que mes sœurs arrivent. Donc, finalement, bah, je suis un peu rentré là-dedans. Et après, la programmation, pour moi, ça a été révélateur parce que c'était vraiment mon univers à côté et je n'étais pas jugé pour ce que je faisais. Et vu que je n'étais pas jugé, je pouvais un peu tester. Et à l'époque, donc, Internet, ça n'existait pas trop. Hein. Donc, moi, je commençais à être vieux, là. C'est terrible. Hein. Je suis un boomer, maintenant.
Ça va.
Mais...
comme un jeune retraité, enfin, presque.
on y arrivera. Et ce truc-là, du coup, en fait, dans ma famille, ils sont assez littéraires aussi. Moi, à part les romans d'amour, tu vois, un peu eau de rose, c'est le truc que je disais à l'époque, enfin, quelques-uns, tu vois. Et à part ça, en fait, mon père m'a dit, bon, bah, Victor, qu'est-ce que... Enfin, j'avais le droit à un livre à chaque fois que j'allais à la FNAC, en gros. En gros, je dis, bah tiens, je veux ça, c'est des bouquins de 500 pages pour apprendre à programmer, et puis je l'ai fait tout seul. Et puis après, en fait, les gens me félicitaient parce qu'ils trouvaient ça fantastique ce que je faisais. Donc j'ai trouvé le moyen de m'épanouir dans ce truc-là.
Ok, c'est là où tu as montré vraiment, regardez, je suis bon quelque part finalement. Et en fait, ça me donne un peu l'impression d'un fils d'eux. Tu sais, quand on est fils d'eux, en général, c'est ce qu'on entend, on vit toujours à travers notre père ou notre mère ou quoi, et toi, tu vivais un peu à travers la réussite de tes sœurs à l'école. Mais pourquoi, alors si tu étais si bon en développement en informatique, pourquoi tu n'as pas fait développeur, tout simplement ?
Alors, parce que vu que j'étais bon dedans, c'est terrible. Et là, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question. Quand on a le sentiment qu'on n'est pas bon et qu'on trouve qu'on a des facilités quelque part, et ben on dénigre les facilités qu'on a et on se dit, c'est pas le truc où je dois aller.
Ouais, okay.
Et moi, je pense qu'il y a eu loupé. Il y a eu un loupé où j'aurais dû me dire, OK, en fait, j'aurais peut-être pas dû faire une prépa, j'aurais peut-être dû déjà aller dans une école d'ingé, déjà devenir développeur et aller dans un peu ce milieu-là. Et je pense assez vite, j'aurais dû me bouger aux États-Unis parce que nous, on était assez ouverts. Enfin, dans mon école, ils sont tous partis aux États-Unis. Donc déjà, moi, je me disais que c'était possible. Et peut-être qu'en fait, je me serais beaucoup plus... Enfin, je me suis bien épanoui dans ma vie. Hein. Je me suis toujours éclaté. Mais j'aurais pu y aller, mais j'avais négligé ça. Donc, je pense qu'un message, c'est, moi, je me redirais à moi, tu vois, de 12 ans. Je dis, mec, attends, l'informatique, t'es bon, mais en gros, t'es pas assez bon. Mais traîne avec des gens qui sont vraiment bons. y en a beaucoup, va avec eux et passe-y plus de temps et en fait investisse-toi beaucoup plus là-dessus parce que dans les 10 ans à venir, même dans les 30 ans à venir, c'est ça la vraie valeur. Le reste des cours, etc., bon, fais le minimum. Et même les mathématiques, tu vas voir, tu vas tout comprendre en faisant de l'informatique. Tu vas avoir beaucoup d'intérêt. Enfin, tu vas t'épanouir là-dedans, donc vas-y beaucoup plus. Et ça, moi, je n'avais pas compris parce que ce n'était pas… moi, j'étais là, OK, il faut maîtriser les maths, il faut que je fasse ma sup, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je vivais encore dans le truc social, hein, tu vois. Et encore aujourd'hui, je vais encore dans un truc social, tu vois. Mais à l'époque, tout ça, je ne l'avais pas forcément intégré, quoi.
Ah, tu avais un modèle, atteindre un master, faire une prépa, c'était vraiment le modèle qu'il fallait atteindre et le trajet à effectuer. Mais je pense que tu dis que c'était avant, mais aujourd'hui encore, quand je réfléchis à mon parcours aussi, je ne me suis jamais dit que j'allais devoir faire autre chose qu'un master ou que faire une école de commerce. Dans ma tête, c'était écrit à l'avance, je sais pas, comme si tu avais un chemin et il faut que tu le suives. Et hop, tu fais ton bac, ensuite tu vas en école de commerce, ensuite tu as ton master et la rat race, etc. Mais alors, au lycée, donc tu dis que tu vas pas faire ce truc de développeur, mais tu vas en école d'ingé d'abord ? École d'ingénieur avant ?
Alors, à l'origine, je voulais pas faire une école d'ingénieur, je voulais faire une école de stats, qui était assez cotée. Je vais en. Enfin, c'est le système français, je vais en classe préparatoire, parce que je me dis que moi, en fac. Enfin, je savais pas déjà qu'il y avait des écoles d'ingénieurs post-bac. Okay. Et faut savoir aussi. Dans un certain cadre, c'est mal vu. En fait, moi, dans mon école, soit tu partais aux US, soit au Canada d'ailleurs, soit tu partais faire, je sais pas, McGill, soit tu partais faire Stanford, tout ce que tu veux, etc. D'accord. Et moi, c'était l'alternative française. On n'est pas beaucoup à être resté en France. On était, peut-être 5 ou 10 de toute une promo à rester en France. Et là, c'était d'aller faire des prépas, quoi. Et moi, je suis parti dans tout ce qui était ingénieur parce que finalement, j'avais des facilités en. J'hésitais. Hein. J'hésitais entre avocat, médecin, enfin médecine, école de droit et. Enfin, truc classique, quoi. Et maths, quoi. Et je me suis dit, et pas école de commerce. Je me sentais pas école de commerce. Et du coup, j'ai fait maths sup, maths spé. Et je cherchais à intégrer une école de stats où finalement en deuxième année, donc c'est un cursus de 2 ans, en deuxième année, j'étais sur liste d'attente et à la fin je l'ai pas eu. Donc en deuxième année, je me suis dit, OK, prends n'importe quelle école et pars de la prépa. Non, parce que la prépa c'était, c'était intéressant, mais j'ai plus joué aux jeux vidéo que je suis allé en cours. Enfin si, je suis tout le temps allé en cours, mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo le soir parce que, enfin la première année du moins. En fait, tu vois, je suis arrivé dans une prépa. Déjà, j'ai pas eu la meilleure prépa, du monde. Donc, pour ceux qui nous écoutent, quand vous allez en prépa, elles sont classées. Et en fait, plus vous allez dans une prépa qui est bien classée, plus vous avez de chances d'intégrer des bonnes écoles. Et plus vous êtes classé par niveau. Donc, généralement, si dans mes sœurs, elles ont fait Henri IV, meilleure prépa, tout ce que tu veux, comme d'habitude, tu vois. Et moi, j'arrive, j'ai pas Henri IV, j'ai pas tout ça. Donc, je suis un peu dans un truc où, le niveau est moyen. Et en première année, au début, je commence. Donc, j'étais plutôt bon, voire dans les meilleurs, voire peut-être le meilleur en prépa. Donc là, c'était bien. Et puis là, rupture amoureuse. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Et j'ai rappelé un pote. Et on a commencé à jouer tous les soirs. Et en gros, ma première année de prépa, j'ai un peu rien fait. Du coup, en deuxième année, j'ai passé tout mon temps. J'ai découvert la bibliothèque, ce qu'on découvre normalement en première année, tu vois. Et en deuxième année, j'ai passé ma vie en bibliothèque à rattraper ma première année de prépa. Parce que j'ai quand même une faculté de savoir quand je ne sais pas les choses. Okay. Et là, je me rendais compte que j'étais vraiment, tu vois, très, très loin. Et du coup, j'ai passé une grande partie de ma deuxième année à rattraper la première. Et j'étais à deux doigts d'avoir l'école que je voulais en stats. Je ne l'ai pas eu. Et du coup, je suis parti en école d'ingé juste après.
OK. Et là, l'école d'ingé, toujours pareil. Tu n'as pas envie d'aller en cours où tu y vas, mais tu t'en fous. Comment ça se passe ?
Alors, avant, en fait, j'avais quand même c'était impossible pour moi de ne pas aller en cours. Donc, quoi qu'il arrive, j'allais en cours. Ouais, j'étais assidu tout le temps, j'étais toujours là, même si je faisais rien et que je comprenais pas grand-chose, j'étais toujours là, tu vois. Et en sortant de la prépa, je me suis dit, Victor, promets-toi que plus jamais tu iras dans un cours où tu ne comprends rien et qui ne sert à rien. Bon, voilà, c'était mon... Tu vois, je me suis juré ça moi-même. Ouais, parce que si en prépa, si tu ne vas pas en cours, tu te fais virer. Hein. Donc, tu vois, c'est un peu le truc.
C'est pas le choix.
École d'ingénieur, du coup, j'ai pris une école d'ingénieur en informatique et un peu nouvelle technologie. Du coup, je suis arrivé dans l'école. Et en fait, là, je me suis retrouvé dans un truc un peu bizarre. C'est parce que pour le coup, j'avais tellement d'avance sur l'école. Parce que là, tout ce qu'on devait faire comme cours, c'est des trucs que moi, j'avais fait perso dans toute mon adolescence. Et sur les cours un peu extra, c'était pour le coup assez, assez simple pour moi. Qu'en fait, et les cours, du coup, m'embêtaient. Du coup, je ne suis jamais allé en cours.
OK. Je suis vraiment... T'es passé du tout au tout, là, quand même. T'as changé
tout au tout. Ouais, en fait, j'ai commencé. J'ai eu la chance, on était classé par niveau d'anglais. Et moi, je me suis retrouvé avec en fait les meilleurs de la promo. Donc, on avait des petits groupes en fait qui étaient constitués en début d'année pour 2 ans. Donc, si tu tombais dans un groupe, t'imagines avec que des gens qui bossent pas et qui viennent pas, c'est horrible. Moi, je suis tombé dans un groupe où il y avait que les meilleurs de la promo, tu vois, que les meilleurs de district. Donc, c'était génial, tu vois. Les mecs étaient et vu que moi je faisais mon taf et bon, tu vois, j'étais plutôt sympa. En gros, je disparaissais pendant 3 mois, tu vois. Et après, je réapparaissais et puis mes potes me faisaient réviser et je passais les examens. Et du coup, ben, c'était assez facile pour moi parce que j'avais déjà bossé les trucs pendant un moment d'heure. Donc, et j'étais un peu passionné par le sujet. Okay. Donc, à la place que j'allais pas en cours, en fait, j'ai intégré une junior entreprise. Il y avait à l'époque dans l'école. Dans l'école, nous, c'était du coup, on était la meilleure à l'époque. Et du coup, j'ai pas mal bossé. Donc, j'ai trouvé des clients, signé des contrats. Enfin, j'ai vraiment pris ça pour un job. Et du coup, je prospectais beaucoup. On vendait des sites internet, on vendait des trucs, gérait des projets. À 50 000 euros, tu vois, quand même. Donc, des trucs, quand tu commences et que tu as, je sais pas, là, j'avais 18, 20 ans, je dirais, c'était une superbe expérience. Puis nous, on avait vraiment un esprit corps et tout. Et à côté de ça, ouais, c'est principalement ce que je faisais, mais en gros, j'avais pas en cours. Et l'école d'ingé, en fait, j'y suis pas resté très longtemps en vrai, parce que j'ai eu des petits bugs. En fait, si tu veux, le mec qui était en charge des stages, il m'a confondu avec un autre gars et il a cru que j'étais en troisième année alors que j'étais en première année. Et si tu veux, moi j'étais là, écoute, pas de problème. Tu vois, en fait, un jour je vais le voir sur un truc, il me dit ouais, non, mais elle est où votre convention de stage et tout, machin. J'étais là, mais attends, j'ai pas de stage normalement, machin, tu vois. Et il s'appelle François d'ailleurs, et je le remercie. Et je sais même pas si aujourd'hui il sait ça, tu vois. Et en fait, depuis le début, en fait, moi, je suis arrivé en école d'ingé. En fait, j'ai commencé des stages, tu vois. Enfin, les troisièmes années avaient des stages un peu tout le temps, au moins des stages de 6 mois. Et moi, en fait, assez vite, j'ai commencé par avoir des stages. Alors que j'étais en première année. Donc, en fait, j'avais des stages en première année. C'était lui qui signait les conventions, alors que moi, je devais être en cours. Mais n'importe quoi. J'ai eu ça. Je me suis retrouvé à organiser. Je bossais pas mal pour. J'ai commencé à organiser une cave quand j'avais 18 ans parce que la mère d'un de mes potes était professeur d'anglais, d'histoire à NYU, New York University, tu vois. Ils ont un spot à Paris. Et j'avais commencé à organiser une cave, ils m'avaient vachement aimé. Et du coup, j'étais monté genre en charge de l'intégration des étudiants des NYU à Paris, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé à faire ça. Après, ça a vachement marché. Je me suis retrouvé à organiser au Sénat un événement pour NYU avec des sénateurs français. Enfin, t'imagines même pas. Donc, en fait, j'ai jamais mis les pieds dans l'école d'ingé. J'ai validé tous mes trucs. J'étais dans le top 5% de l'école d'ingé parce que heureusement que j'ai mes potes qui me faisaient taffer quand même avant. Parce que quand on a des facilités, il faut quand même taffer, tu vois. Et franchement, génial. Génial. Et là, j'ai découvert la vie à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte. C'est pour ça que je te dis qu'en vrai, tu vois, la classe prépa, moi, 2 ans de prépa. Et heureusement que je suis tombé sur un pote de mon père à un moment qui était, je sais pas quoi, qui était centralien, je crois, et qui avait un fonds d'investissement et tout, et qui m'avait dit, il m'a dit, Victor, mais toi, barre-toi de la prépa, c'est pas ton truc. Et tu vas voir, tu vas t'épanouir en faisant autre chose. Et du coup, mon père m'avait dit, écoute, Victor, t'as le droit de te barrer si tu veux. Et d'ailleurs, si tu te barres, je t'offre, je sais pas quoi, mais il m'avait offert un truc pour que je me barre de prépa, tellement c'était pas mon truc, tu vois.
Et tout le monde avait capté que fait que tu te barres, quoi. Fait que tu partes de là.
Ouais, tout le monde sauf moi, tu vois. Mais je devais pas avoir une bonne tête, tu vois. Et bref, donc école d'ingé, super. Okay. Très intéressante.
Ah bah oui, c'est intéressant. Tu n'étais pas en cours et tu faisais tout à côté.
Ouais, que des stages. J'avais compris parce qu'à un moment. Ouais, tu vois. Enfin bon, en fait, ça dépend parce qu'il y a des cours qui. Enfin, il y a des cours qui étaient intéressants, j'y allais, mais en vrai. Une fois que t'as le savoir du cours, ça sert pas à grand chose d'y aller. Enfin, j'avais tellement détesté la prépa que je m'étais permis à moi. Alors pour moi, me permettre de ne pas être à l'heure ou de ne pas aller en cours, enfin c'est un énorme truc. Tu vois, à l'époque, moi j'allais à chaque fois, même si je comprenais rien, que ça servait à rien, j'allais en cours. Tu vois.
Ok. Et donc en fait, ce que je remarque depuis le début, même depuis tes 10 ans, c'est que t'es quelqu'un qui aime faire. T'es dans l'action, t'es entrepreneur, t'as envie de faire des trucs. Là, tu t'organisais pour NYU, l'arrivée des étudiants, plein de choses comme ça. Mais quand t'étais en prépa à ce moment-là, comment tu te sentais dans ta tête? Est-ce que donc tu jouais aux jeux vidéo la première année, mais comment ça allait? Est-ce que tu t'es dit, il faut que je me fasse des activités à côté de la prépa? Est-ce que déjà, je lance des side business ou des n'importe quoi à côté de la prépa? Comment ça se passait dans ta tête?
En fait, la problématique de la prépa, c'est que en fait, pour maintenir un niveau même moyen, il faut travailler énormément. Bon, en gros, la prépa, c'est quoi? Tu as 7 à 8 heures de cours. Et si tu fais, comme moi, maths sup, maths spé, tu as 4 au moins 4 heures de maths par jour. Donc, tu as 4 heures de maths par jour. Donc, ça veut dire, nous, on comptait en copie double parce que tu dois tout apprendre par cœur après. Et après, quand tu as 4 heures de match, bah, tu as 3 heures à 4 heures de maths par jour, plus, je sais pas, 3 heures de physique. En gros, tu fais que ça. Ta semaine, c'est maths physique. Voilà. Maths sup, maths sp, c'est maths physique, c'est tout ce que tu fais avec plus de maths. Et du coup, tu fais ça la journée. Donc là, il faut te dire, pendant 4 heures, tu as quelqu'un qui assez vite t'écrit des équations au tableau, qui t'explique le raisonnement, etc., qui a vite fait 2-3 exercices. Et après, le soir, pour le lendemain, en fait, si tu veux t'en sortir, tu dois tout apprendre par cœur et refaire tous les exercices pour intégrer. En fait, apprendre, c'est dur. Du coup, en vrai, tu penses pas trop à ce moment-là monter des. Enfin, quand tu rentres un peu dans le cursus prépa, tu es juste là, ok, je taffe. Et à la fin, j'ai une target qui est le concours de fin de deuxième année pour intégrer les écoles et les concours. C'est quoi? Tu fais le concours polytechnique pour intégrer polytechnique ou d'autres écoles, centrale pareil, etc., etc. Et en fait, tu penses pas du tout au business d'à côté. Moi, mon échappe. Ouais, non, tu penses pas trop, sinon tu t'en vas, tu vois. Tu vas autre part, tu vas faire autre chose. Et moi, en fait, ce que je faisais la première année, donc premier trimestre, ça se passe très bien, et fin du premier trimestre, en fait, à chaque fois que j'entrais chez moi le soir, j'essayais vite fait de relire mes cours, et après, j'ai lu. Alors, à l'époque, je jouais à Day of Defeat, donc tu vois, t'as Counter-Strike, tu vois, et t'as l'équivalent un peu Seconde Guerre mondiale, ça n'existe plus ces trucs. Aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce qu'ils parleraient, Battlefield, Fortnite, enfin voilà, il y aurait Fortnite, j'aurais joué à Fortnite, tu vois, et je faisais ça avec un pote qui. Lui, pareil, voulait devenir pilote et en fait, il n'avait pas pu. Et du coup, il s'est retrouvé dans un truc à Creil où il s'emmerdait. Et du coup, tous les soirs, on jouait ensemble, tu vois. Et je pense que lui, je l'ai tiré vers le bas plus que moi, en fait. Et terrible. Et tu vois, c'est comme quand, je sais pas, t'es un peu en errance et tu retrouves un pote. Au début, c'est bien, tu vois. C'est un pote un peu, je sais pas, un peu comme dans les couples, tu vois, un peu pansement. Mais au bout d'un moment, dès qu'il y en a un des deux qui devient toxique, faut se barrer, tu vois. Toi, t'as une vie aussi, tu vois. Donc voilà, sur la prépa. Et puis, tu penses pas. Tu vois, les startups, on n'en parlait pas. Enfin, t'es vraiment dans. Et c'est normal, tu vois, t'es conditionné pour faire tes concours, quoi.
Ah, donc le seul moyen de t'évader, toi, c'était les jeux vidéo avec ton pote. C'était ça, quoi. C'est ton truc. Quoi. Et donc là, t'as fait la. Donc après, bon, t'as fait la classe d'ingé et tu te retrouves en commerce. Comment ça se passe? Comment tu te retrouves là-bas?
Ouais. Alors, avant de me retrouver en école de commerce, en fait, école d'ingé, donc je fais 2 ans. Donc c'est une école en 3 ans.
Ouais.
Je fais en fait 2 ans et là, bien sûr, j'ai validé tous mes trucs en fait. Enfin, c'est un peu bizarre parce que du coup, en cursus, c'est un peu particulier, ils ne savent pas trop me mettre. Et là, vu que j'étais plutôt de bien sélectionné, en fait, les meilleurs de mon école d'ingé pouvaient aller faire de la recherche à Stanford parce qu'il y a un partenariat avec cette école-là. Deuxième meilleur, faire de la recherche à UCLA. Et moi, un de mes potes était meilleur que moi, donc il a eu Stanford, il est parti. Et puis moi, mon rêve, en fait, c'était un peu d'aller aux États-Unis. Donc, c'est un peu les rêves de mon époque. Hein. Donc, rêve de mon époque, très basique, c'est d'être banquier, d'être trader et de gagner vachement de thunes. Et deuxième rêve, c'était de partir aux États-Unis, en Californie, en l'occurrence. Hein. Voilà, donc, on était très basique à l'époque. D'ailleurs, un de mes stages, c'était d'être... Donc, j'avais été trader juste avant. En fait, dans tout ce truc, enfin, une petite histoire, ouais, ça peut intéresser tes auditeurs, du coup. À un moment, il fallait faire un stage ouvrier.
Ouais.
Donc, mon stage ouvrier, moi, je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire et tout. C'est un stage de 2 mois, je crois, en école d'ingé à l'origine. Et quand on est ingénieur, il y a un truc assez vieux, mais qui dit, en gros, il faut que tu ailles sur la chaîne, tu vois, pour comprendre les gens qui... La production, quoi, pure et dure. Genre, il faut que tu sois livreur, tu vois. Il faut faire un truc, tu vois, dur que toi, tu ne vas pas faire. Et vu que toi, tu es ingénieur et que tu es hyper smart dans ta vie, tu vois, c'est parce que c'est clair, tu es hyper smart, tu vois, quand tu es ingénieur. Enfin, franchement, vous verrez les ingénieurs. Enfin, moi, j'en côtoie plein. Enfin, on n'est pas tous hyper smart. Loin de là, et regardez-moi, tu vois. Et en gros, il y avait un stage ouvrier. Et pour le stage ouvrier, moi, je voulais absolument aller en banque, tu vois. Parce que moi, mon rêve, c'était d'être trader à ce moment-là, tu vois.
Ouais.
Et là, du coup, impossible d'avoir un stage en tant que trader.
Ouais.
Trop dur. Parce que c'était que les gars qui faisaient soit grande école de commerce, soit grande école d'ingé, spécialisée en finance en dernière année et tout. Et moi, j'étais du coup j'étais en fin de première année d'école d'ingénieur. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est... en gros, j'ai pu... de contact en contact, je rencontre quelqu'un qui est au back-office en banque. Back-office en banque, c'est les mecs qui relisent les contrats et qui font, en gros, de l'administratif sur des contrats. Donc, banque d'affaires, en fait, quand on pense à banque d'investissement, pardon, plutôt, plutôt ce qui est tout ce qui est trading, il y a front office, c'est les traders, middle office, c'est ceux qui analysent les traders, et après, back-office, c'est ceux qui font l'administratif. Et en gros, j'ai pu rentrer au back-office. Et au back-office, j'étais sur un desk avec... Donc, un desk, c'est un bureau. J'étais sur un bureau avec 7 personnes. Et il s'avère qu'à un moment, les personnes tombaient... il y en avait quelques-unes qui tombaient malades, etc. Et en fait, moi, je restais beaucoup plus tard que tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tous les jours, je faisais une tâche administrative qui était automatisable. Et en fait, ce que j'ai fait pendant, franchement, 2 semaines, je restais vraiment tard. J'arrivais tôt, je restais tard. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Il est trop bizarre et tout. Et en fait, j'ai automatisé tout mon taf. Ce qui fait qu'au bout de, je sais pas, ouais, c'était peut-être 3 semaines ou 1 mois, j'avais plus rien à faire. Parce que tout était fait automatiquement. Faut dire, les tafs, nous, c'était quoi? C'était de redire des contrats. Et on avait des contrats où il y avait un truc qui s'appelle les appels de marge. Donc, en gros, il y a une banque qui doit de l'argent à une autre banque. Et par exemple, à un moment, tu dois appeler, je sais pas, JP Morgan à Londres, parce qu'ils te doivent 10 millions d'euros, ce qui est normal. Bon, il y a de l'argent qui circule. Et en fait, on faisait ça par téléphone. Moi, je me suis dit, mais ça, et après, on confirmait par email. Et il n'y avait pas besoin d'avoir les deux. Et du coup, je me suis dit, mais autant faire une lecture, enfin, reprendre les données automatiquement du contrat et autant envoyer un mail en disant, bah, tiens, tu me dois ça, est-ce que tu es d'accord? Et tu vois, au lieu de, enfin, bon. Et du coup, en fait, j'ai automatisé tout mon taf et j'ai automatisé le taf du desk. Et du coup, les mecs étaient là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Et j'ai plus rien à faire après. Et vu que j'avais plus rien à faire, je commençais à discuter avec les traders. Et il s'avère que dans les traders, il y avait un mec qui est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Olivier. Je ne donnerai pas son nom de famille, qui est numéro 2 de la salle de marché. Maintenant, je pense qu'il gère la salle de marché. Il a un portefeuille quand même de 10 milliards, hein, donc mec costaud. Et je discute un peu avec lui et je traitais des dossiers un peu plus complexes parce qu'on me faisait confiance. Et sur des produits un peu bizarres, des produits un peu dérivés bizarres. Et au bout d'un moment, il me dit, mais mec, t'as l'air pas trop con, j'ai besoin d'automatiser tel truc. Il paraît que t'as fait un bon boulot au back-office, tu veux pas venir? Et paf, je suis passé assistant trader dans la banque. Et voilà, et me voilà, assistant trader. Et là, alors là, j'avais un melon, tout ce que tu veux.
Ah là, c'est bon, là, t'as atteint ce que tu voulais atteindre.
Voilà, j'avais atteint ce que je voulais atteindre. Et à la fin, super bon taf. Il voulait même... il y a des discussions pour me proposer un taf à ce moment-là, que j'ai même pas fini mes études. Enfin, j'étais en fin de première année, hein, d'école d'ingé. Donc, tu vois, quand même, faut y aller, hein, faut du culot. Hein. C'est ça le truc, faut vraiment du culot. Et finalement, donc ça s'arrête. Il fallait quand même que je retourne en cours. Et là, je me retrouve en fait à me dire, OK, qu'est-ce que je fais? Ce taf de trader, je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je me suis dit, en fait, non, c'est pas mon truc parce que. En fait, en regardant les traders, je me suis dit que j'allais pouvoir les automatiser de la même manière dont je m'étais automatisé, dont j'avais automatisé le taf d'avant. Tu vois. Et j'avais automatisé une grande partie du taf des traders, en fait. Toute une partie reporting à ce moment-là. Et je me suis dit qu'en fait, ça n'avait pas d'avenir. Parce que si un mec comme moi était capable de le faire, ça allait peut-être prendre, je sais pas, 5-10 ans. Mais en gros, ce taf-là, là, n'allait plus exister. Mm-hmm. Et là, dans la banque dans laquelle j'étais, il ne gagnait pas tant que ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut remonter dans les maths et aller dans un truc plus costaud. Et c'est pour ça que je suis allé commencer un doctorat à UCLA.
Ok. Ah, ok, d'accord. Donc,
bim, ouais.
Bim,
donc, tu vois, les mecs me disent, tu vois, alors, je me retrouve donc on me dit à un moment, ouais, écoute, Victor, bon, ben, t'as été sélectionné, l'école te soutient pour aller à UCLA. Et moi, je dis, ok, où est-ce que je vais? Est-ce que je peux faire j'ai des profs et tout, je m'inscris, comment ça se passe? Et ils me font, non, non, dans ton cas, c'est un peu particulier. Tout ce qu'on te dit, c'est que t'as le niveau potentiel pour y aller, mais tu dois te démerder pour y aller.
Ok. Wow.
Ouais, c'est quoi ce truc de merde? Enfin, franchement, entre nous, ouais. Mon pote là de Stanford, c'est bon, hein, tout était prêt pour lui, tout était bon, il partait, ouais, voilà. Non, moi non, tu vois.
C'est à chaque fois la maison un peu bancale, tu sais, qui ne sait pas trop comment elle tient.
Non, mais tu vois, tu sais, t'es là, en fait, j'étais tellement content quand je l'ai eu, tu vois. En plus, c'est mon meilleur pote qui est parti à Stanford. On était là, putain, on va tous les deux se barrer. Alors, nous, notre connaissance de Californie, on pensait qu'on allait habiter à côté, tu vois. Alors qu'il y a 4 heures de caisse, enfin, je sais pas, même peut-être plus, entre Palo Alto et UCLA, tu vois, et Los Angeles. Et là, je me retrouve, donc, t'es hyper content parce que là, ton rêve s'exécute, tu vois. Tu te dis, j'y vais et tout machin, et après on dit non mec, c'est à toi de trouver. Après tu contactes les anciens de ton école qui y sont allés et ils disent ouais non mais Victor, moi j'étais comme toi en fait, moi on m'avait pris parce que en fait un prof un ancien prof qui était avant à UCLA mais beaucoup de notre école, du coup il nous prenait et puis voilà. Et en fait non, pas du tout.
Ouais, okay.
Et du coup je me suis dit bah attends mec, ils m'ont dit ça, du coup ça veut dire que je postule, donc ça veut dire que je postule pour faire comme un doctorat, donc autant que je postule pour un doctorat. Là, je me suis dit, pourquoi enfin, et là, je me suis dit, OK, postule pour un doctorat.
Wow, le petit qui est mauvais à l'école qui postule pour un doctorat, quand même, c'est...
Non, je me suis dit, OK, vas-y. Alors, doctorat, après, on pourra en parler, c'est un peu la galère, en vrai. Hein. Et du coup, je me suis dit, attends, UCLA, pourquoi je ne postulerai pas à Berkeley, tu vois? Et pourquoi je ne postulerai pas autre part? Et là, j'ai eu tellement de refus, mais t'imagines même pas. J'ai eu que des refus. J'ai encore tous les mails, parce que j'ai déjà une boîte mail à l'époque, tu vois. Et à un moment, j'ai fini par avoir un truc à Berkeley, quand même, un truc à UCLA et un truc à San Diego.
finalement, t'aimes bien l'école quand même pour aller vouloir postuler un doctorat pour UCLA. Il n'y a pas une autre manière d'arriver à ce que tu voulais faire?
Non. Et puis c'était que le moyen d'arriver à ça, en tout cas d'être Kant, il faut avoir.
Ah, faut passer par là, ok.
Ouais, en fait, faut que t'aies un tampon sur ton CV. Enfin, faut que t'aies un méga tampon. Donc, faut que t'aies un doctorat ou que t'aies fait, je sais pas quoi, le MFI de Berkeley. Alors, doctorat, ça coûte moins cher, hein, parce que MFI de Berkeley, ça te coûte 70 000 balles, voire 100 000 balles, dollars. Et sans compter tes frais de là où t'es. Et tout ce qui est doctorat, bon, bah, ça te prend plus de temps, mais t'es payé pendant ton doctorat.
Ah, ok, d'accord. Parce que l'argent aussi, la question de l'argent me venait, comment financer tout ça, quoi.
Ouais, et en fait, j'ai encore, pour UCLA, j'ai encore fait un truc bizarre. C'est que je suis parti pour 3 mois à l'origine et j'ai fini par y rester jusqu'à ce qu'ils me proposent de continuer avec eux.
Ok. Enfin,
moi, je suis parti, 4 mois. Je suis parti vraiment, j'y vais, on va voir comment ça se passe. Et puis, ça se passait plutôt bien. Puis, à un moment, je donnais des cours quand même à des gars sur des trucs où je comprenais rien. C'était hallucinant. J'étais. En fait, quand tu fais un peu de recherche et tu deviens un peu teacher assistant, en fait, tu vois, assistant de professeur. Et là, du coup, de temps en temps, il y a des TD. Enfin, voilà, tu es TD, quoi. Tu fais des TD en France. Et à des moments, tu dois corriger des. Enfin, en live, tu dois corriger des trucs, etc. Mais tu vois, moi, je m'étais pointé tous les mots en anglais dans le truc très particulier, dans mon sujet qui est très, très niche. J'étais un sujet très, très niche. Bah, au début, je faisais pas de fier dans mes premiers cours. Hein.
Ouais.
Enfin, j'étais là, tu vois.
Tu avais un peu le syndrome de l'imposteur, de dire, mais qu'est-ce que je fous là et comment j'ai réussi à avoir ça?
Mais surtout, j'étais clairement un imposteur. Tu vois, il m'a fallu franchement bosser beaucoup. Heureusement
c'était pas qu'un syndrome.
Heureusement que j'avais que des potes qui venaient de Polytechnique qui me disaient, mais Victor, faut que tu rattrapes ça. Il me coachait, tu vois. Et heureusement, hein, parce que putain, j'étais loin. Hein. Poser des questions, les gars. J'étais là, merde. Puis je disais, je sais pas, tu vois. On va traiter ça plus tard. Tu vois, je pouvais rien dire, quoi.
Et ça te plaisait? Comment t'as vu l'avenir à ce moment-là?
C'était horrible. En fait, moi, j'avais l'image, si tu veux, de des films américains, genre, tu vois, Californie, tu fais la teuf, il fait American beau, Fire. Il fait chaud. Ouais, bah, tu vois. Et moi, j'étais pas très distingué. Hein. Et j'arrive là-bas, et en fait, je me retrouve dans un labo. Alors, un labo, tout le monde s'imagine un truc fantastique, mais moi, j'étais juste dans un cubicle à l'américaine, donc un petit truc là. Et c'est une pièce de, je sais pas, elle devait faire peut-être 80 mètres carrés. On était, je sais pas, 10 dedans avec nos petits cubicles et il n'y avait pas de fenêtre. Et en fait, nous, on n'a pas de labo parce qu'on fait que des modèles mathématiques. Donc, on n'a que nos ordi et on t'a fait. Et en fait, faut se dire un truc. La recherche aux États-Unis, il n'y a pas d'Américains. Il y avait un Américain sur les 10.
Ah, c'est
et tout le reste, c'est que des étrangers. Il y a, je sais pas, la moitié, c'était asiatique. Indien. Et après, ouais, il y a 2-3 Coréens et après 2 Européens, quoi.
Wow. Ouais.
Pourquoi? Parce que, en fait, c'est chiant.
C'était pas American Pie, hein. c'était pas pareil. Hein.
Ah non, pas mais non, moi mon délire, c'était quoi? C'était d'aller chez mon pote polytechnicien le vendredi soir et on se buvait une bière de vin à deux, enfin une bouteille de vin à deux en discutant de nos modèles et de la vie et on faisait rien, voilà. Et on sortait pas, on sait rien. Enfin, en vrai, on faisait rien. C'est terrible.
Et donc, t'es resté combien de temps là-bas?
Je suis resté un peu plus d'un an.
Ah, quand même.
Et à la fin, je suis rentré et en rentrant, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer quand même. En fait, j'ai fait deux trucs en même temps. J'ai fait la Sorbonne à Paris en même temps que le SCP.
Ok. Mais c'est sur combien de temps là? T'avais quel âge quand tu fais le SCP?
J'avais 21 ans, 22 ans.
On a l'impression que t'as fait plein de choses en très peu de temps. Parce que du
18 toujours.
C'est quand même assez.
Bah, si tu veux, vu que je suis pas allé beaucoup en cours, bah, il fallait bien que je fasse des trucs. Et j'étais dans une phase un peu très dynamique. Et ce qui se voit dans tout mon profil, c'est à chaque fois, bah, j'ai essayé de faire plein de trucs, quoi.
Ouais, t'es un peu un bulldozer. Je crois que tu le dis dans le livre d'ailleurs que tu fonces tête baissée. Ouais. T'es allé vite, ouais. Ok.
Je suis un bourrin, quoi. Je prends les trucs, j'y vais.
Et donc là, tu fais SCP, ça se passe comment? Enfin, pas que SCP, tu fais SCP et t'as dit Sorbonne?
Et la Sorbonne, ouais. La Sorbonne. Et du coup, j'ai continué la recherche à la Sorbonne en même temps que le SCP. Et en même temps, j'ai créé une boîte dans le Delaware.
Là, pour le moment, tout ce que tu me dis, c'est le parcours. Si on n'écoute pas comment t'étais à l'école, si on suit juste ton parcours et ton CV. T'as le CV quand même de l'élite française. Tu fais des grandes écoles, tu vas faire de la recherche aux États-Unis, tu lances ta boîte. Et maintenant, tu me dis, mais moi, l'argent, je vais essayer d'éviter d'avoir de l'argent. On va parler sûrement de frugalisme et de minimalisme après, mais je comprends pas en fait. J'ai du mal à comprendre comment il y a eu un choc aussi important.
Ben, si tu veux, moi en fait, j'étais tellement imprégné de ce qu'on devait faire et du modèle que ben, j'ai essayé de me conformer au modèle. Toutes mes études, c'était ça. Et, tu vois, moi, j'ai pas. J'ai fait une pré. En fait, il y a quand même un truc, c'est que la méritocratie, ça n'existe pas. Hein. Enfin, faut qu'on soit clair, mais il faut quand même le comprendre. Et du coup, la méritocratie, c'est quoi? C'est juste que, ben oui, on travaille beaucoup, on a meilleures écoles, etc. Non, en réalité, alors moi, pour être bien dedans, en fait, c'est pas compliqué. Quand vous avez deux parents qui sont exceptionnels et qui ont fait des études et qui, d'un point de vue cognitif, sont bons, ils vous encadrent, ils vous mettent dans les meilleures écoles où vous êtes vachement encadré, ils vous expliquent ce que c'est la réussite et déjà que les classes préparatoires, ça existe et déjà qu'il y a les grandes écoles. Ils vous expliquent comment travailler, ils vous forcent, oui. Mais en fait, vous, c'est tellement intégré dans vos gènes que, bon, ben, dans vos gènes et dans votre quotidien, que finalement, oui, vous allez reproduire ce qui a été fait avant. Et on va vous mettre dans des conditions pour réussir. S'il vous faut un, deux, trois profs particuliers, vous allez avoir trois profs particuliers. Il y a plein de gens qui pètent des câbles dans ce système-là, mais en vérité, c'est ça. Et moi, je venais d'un modèle où tout le monde faisait... voilà, moi, mes sœurs, c'était Sciences Po Paris, Henri IV ou rien. Hein. Donc, moi, j'arrivais. Moi, mon truc, c'était ça. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai pu quand même pour rester un peu dans dans ce truc. Après, moi, dans ma famille, il faut savoir que indirectement, enfin moi mes parents, enfin je suis le dernier, ils sont pas trop occupés de moi en vrai. Et mais il y a quand même cette, enfin ça se sent cette pression si tu veux quand tu sens que t'es pas à ta place, quand enfin tu vois quand t'es dans des dîners. Enfin nous c'est très chez moi même aujourd'hui. Enfin c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est hyper compétitif. Moi dans ma famille c'est hyper compétitif. Donc indirectement, je pense que j'étais grandement malheureux de pas avoir assez de performance et j'ai quand même essayé de faire ce que je pouvais. Donc je suis resté dans le truc. Et j'essaie de trouver là où j'étais à peu près bon, alors que là où j'étais bon, c'était écrit depuis le début, mais je ne l'avais pas vu.
En fait, le sens de ta vie, c'était de réussir dans ce modèle qu'on t'avait présenté, c'était atteindre le maximum à chaque fois, d'aller au plus haut, et c'est pour ça que tu t'es retrouvé là-dedans. Et donc, après, tu as travaillé dans une startup, c'est ça, Bankin, enfin, je ne sais pas s'il y a eu un truc entre-temps.
J'ai fait pas mal de boîtes, donc j'ai fait de la banque d'affaires, puis après, je suis parti au Kenya.
Ça, c'est pas mal, ça j'aimerais m'arrêter sur le Kenya, comment c'était le Kenya C'est une expérience un peu marrante. C'est là où tu as découvert le minimalisme, non, à dormir un peu, pas par terre, mais presque.
Ouais, c'est ça. Si tu veux, en gros, j'étais en banque d'affaires. J'avais changé de boîte de banque d'affaires. Et là, il y avait une de mes sœurs qui m'avait dit, écoute, Victor, je sais pas ce que tu fais en banque d'affaires, mais tu vas pas rester très longtemps là-dedans, quoi. Fais autre chose. Et d'ailleurs, j'ai parlé de toi à des gars qui sont au Kenya. En gros, j'ai une de mes sœurs qui était au Kenya et en fait, qui a créé les guignols de l'info au Kenya.
Waouh.
Et ouais, gros truc. C'était une de celles, tu sais, qui a très bien réussi parce que bon, vu qu'elles ont toutes réussi, donc elle avait été journaliste aux États-Unis, puis après elle s'est dit comment aller plus loin dans ma carrière, et en fait hop, elle s'est retrouvée au Kenya, donc il y a super longtemps, hein. Et elle a créé Guillaume de l'info, donc elle était assez connue là-bas, du coup elle a pas mal de réseau, puis il y a un mec qui lui dit écoute, on a du mal à recruter des gens qui sont smart dans les startups et qui ont déjà monté une boîte et qui comprennent ce que c'est les trucs financiers, quoi. Et du coup elle m'appelle, elle me dit écoute Victor, arrête tes conneries de banque d'affaires et viens au Kenya, quoi, et faut que je te présente, viens juste une semaine. Si j'arrive pas à te convaincre de venir au Kenya, je te présente un mec qui va te donner un taf. Enfin, s'il match bien, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec toi. Mais du coup, il faut que tu viennes là, tu vois. Et moi, à ce moment-là, j'étais là, bon, je vais peut-être rester en banque. J'ai quand même galéré pour être en banque d'affaires, tu vois. J'ai peut-être pas quitté la banque d'affaires à ce moment-là, quoi. Et bref, à un moment, je me retrouve à prendre une bière avec un pote. D'ailleurs, j'ai fait rentrer chez Amazon. Je sais pas comment il a de part d'Amazon aujourd'hui, mais je pense qu'il est très heureux.
C'est celui qui...
C'est ça, exactement. Je ne devrais pas mettre ça parce qu'on va les retrouver après sur LinkedIn. c'est lui, ouais. Et lui, en fait, parce que j'ai changé les noms quand même dans le bouquin, et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me contactent. Il y a plein de gens qui me contactent en me disant « Mais c'est qui Alexandre ?» Tu vois, je parle d'un Alexandre à un moment dans le bouquin. Il fait « C'est qui Alexandre ?» Je fais « Mais à ton avis, c'est qui ?» Ils me font « Mais c'est Alexandre machin ?» Et je fais « Mais non, j'ai changé de prénom. Ah, donc c'est lui ?» Ouais, c'est lui. Enfin, bref. Et du coup, en fait, je me retrouve avec un pote. Moi, j'étais en couple à ce moment-là. Les femmes ont quand même pas mal drivé ma vie. En fait, mes couples, moi, j'ai besoin d'un couple pour me sentir épanoui. Et là, ça allait mal dans ma vie à ce moment-là avec ma copine de l'époque. Et je prends une bière avec ce pote-là. Et je lui dis, bon, une pinte, je crois. Enfin, on était pompette, quoi. Une pinte et demie, je pense. On n'était pas si pompette que ça. Et là, je lui dis, écoute, pile, je pars au Kenya, genre demain, face, je reprends lundi mon taf dans une autre banque d'affaires et tout, machin. On fait OK, et là, ça tombe sur pile. Et là, du coup, j'achète des billets d'avion et je me barre au Kenya. Et je suis parti au Kenya, et en fait, j'ai fait une semaine, en gros, je ne suis plus jamais revenu, quoi. Après, je suis parti, j'ai pris le taf au Kenya et ouais, là c'était intéressant là.
Est-ce que là, est-ce que tu parles quand même d'un déclic? Tu dis, on va peut-être en parler après, mais à la défense. Mais est-ce que ça, c'est pas un premier déclic déjà dans le minimalisme et le fait de vivre avec le moins de choses possible? Le Kenya, cette expérience là-bas.
Ouais, alors si on vient, en fait, j'ai eu plusieurs déclics. Si on vient à un moment où je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais pas réussir à. En fait, le lien avec ce que je fais aujourd'hui et tout ce qui est, fire et frugalisme, c'était plutôt quand j'étais à la défense. En fait, bon, c'est à un moment, si tu veux, je me rendais bien compte que d'aller à la défense tous les jours, en gros, à un moment, à ligne 1 du métro, je vois une femme près de 45 ans et je la regarde et en fait, je projette toute ma vie sur elle. En fait, et je me dis, elle doit bien gagner sa vie, mais elle en peut plus, elle a l'air fatiguée. La défense, elle en a marre, elle a des enfants, ils sont surendettés pour acheter, un appart à Paris. Et moi, j'ai pas envie de vivre ça.
Ouais.
En gros, il y avait ça. Et à un moment, je me suis dit, et moi, je revoyais ma journée. En gros, la banque d'affaires, pour tous ceux qui veulent se lancer, alors peut-être que ça a un peu évolué, mais je pense pas. Vous travaillez, 90, 120 heures par semaine avec des périodes de creux. Donc, c'est hyper pervers. Vous arrivez à 9 heures du mat, vous bossez généralement beaucoup le matin, puis après, entre, 14h et 16h, vous n'avez rien à faire. Okay. Et après, à 17h, eh ben là, on vous charge de boulot jusqu'à 4h du mat. Tu vois. Et un soir, en fait, en rentrant en taxi, parce que c'est un des avantages d'être dans ce type de métier, ben, je me suis dit, il y a forcément des mecs qui ont trouvé une solution. Et là, j'ai regardé des blogs américains et j'ai commencé à entendre parler de FIRE et comme quoi on pouvait devenir indépendant financièrement. Et moi, je me suis dit, OK, ma vie, en fait, elle est hardcore. Comment je peux devenir indépendant financièrement?
Ok, donc ça c'était après le Kenya, avant le Kenya, je suis
avant le Kenya, banque d'affaires.
Avant le Kenya, donc déjà tu avais ce premier truc quand même dans ta tête, tu commençais à dire mon temps vaut de l'argent, peut-être même plus que de l'argent, mon temps vaut de l'or, comment je vais faire pour sauver du temps et gagner de l'argent en même temps?
Ouais, je me suis dit, en fait j'avais pas encore la notion que mon temps était vraiment très précieux, j'ai plutôt la notion de mon temps aujourd'hui n'est pas forcément bien valorisé, tu vois. Ouais. Et aussi, banque d'affaires, c'est une pyramide. Tu gagnes bien ta vie, mais tu ne gagnes pas très, très bien ta vie avant 7-10 ans. Avant 10 ans, il faut attendre 10 ans. Et moi, je me suis dit, attends, je ne vais jamais tenir le coup.
C'est pas ton style hein, d'attendre 10 ans un truc.
Exactement. J'allais surtout me faire virer avant, tu vois. Enfin, je n'avais pas atteint les objectifs, je ne sais pas quoi. Enfin, je n'allais pas tenir. Enfin, la vie est quand même hard dans ces métiers-là. Puis je pense que je n'étais pas fait pour ça. Il y en a plein qui sont faits pour ça. Si vous êtes fait pour ça, allez-y. Hein, vous pouvez très bien gagner votre vie. Mais moi, ce n'était pas mon truc.
OK.
Et du coup, ça, c'était avant le Kenya. Et après, paf, je me retrouve au Kenya.
Là, ça se passe vraiment la vie dans un tout autre environnement.
Bah compliqué parce que bon pays anglo-saxon, j'avais déjà fait, sauf que Los Angeles, ça va. C'est, tu te sens safe, machin. Kenya, t'as quand même, tu vois, t'es le seul blanc, quoi. Tu sors dans la rue, tu te sens pas très à l'aise. Puis en plus, c'est différent de quand t'es touriste, parce que quand tu vis là-bas, au début, tu te dis bon, comment je fais? Et après, bon, tu te rends compte que culturellement, comment ça fonctionne, etc. Donc, un peu plus compliqué. Donc là, je dirigeais une partie d'un fonds d'investissement danois. Enfin, je dirigeais. J'étais en charge de vérifier. J'étais toujours en bas de l'échelle. Hein. J'étais en charge de vérifier les investissements d'un fonds danois. Et en même temps, j'étais entrepreneur en résidence. Donc, j'encadrais cette start-up l'idéation, donc la création de l'idée jusqu'à la levée de fonds et tout. Et à un moment, il y a une de ces 7 start-up qui cherchait un CEO. Et du coup, vu que je les encadrais plutôt bien, bah, en fait, je suis devenu CEO d'une boîte là-bas. Okay. Donc, une boîte de livraison de repas.
Ah.
Et avant Uber Eats. Oui, alors, il faut savoir, Kenya, alors, il faut se remettre un peu. Kenya, il n'y avait pas de carte du Kenya. Ouais. Voilà. Okay. Il n'y avait pas Uber Eats, il n'y avait pas Uber, il n'y avait rien. Donc,
pour livrer, ça devient compliqué. Hein.
Du coup, en fait, c'est de l'hyper opérationnel. C'est-à-dire que tu as une dizaine de personnes qui sont au téléphone qui vont dire ouais, ok, attends, moi j'habite après, tu vois, le Yaya Center, qui est le centre commercial connu, après le 3e Dodan sur la droite. Et moi, je m'appelle, Roman, mais sonnez à Stéphanie et dites au gardien que vous allez chez Stéphanie. Et les gardiens là-bas, enfin, tu sais, c'est pas trop sécurisé, quoi. Donc, les gardiens, tu vois, ils te. Enfin, ils veulent pas laisser rentrer tout le monde. Enfin, c'est hyper galère, tu vois. Génial. Donc,
tu retiens quoi, ouais, globalement, de l'expérience au Kenya? C'est quoi les leçons? Je sais pas si on peut dire qu'il y a des leçons, mais ce que tu retiens de la vie là-bas? Ce qui t'a servi après, en fait, plutôt. Ouais.
Là-bas, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut y aller. Enfin, il faut bouffer la vie, il faut y aller. Et ce que je retiens, c'est qu'il me faut quand même une sphère minimum. En gros, moi, je suis revenu du Kenya pour deux raisons, mais une des raisons, c'est que j'avais pas de sphère affective là-bas. J'étais un peu.
Ouais.
J'avais des potes, mais c'est une vie un peu bizarre, c'est un peu une vie d'expat, c'est un peu particulier, mais sinon j'y serais bien resté. Et être boss d'une boîte, franchement, on a recruté énormément, on fait plus de 300% de croissance, gros truc. Après, t'as beaucoup de galères. Hein. Tu te rends pas compte à quel point, je sais pas, ne serait-ce que faire des travaux au Kenya, c'est galère, tu vois.
Mais je pense que tu apprends tout. Hein. Même une livraison, ça devient compliqué, quoi. Donc,
ah, mais c'est une livraison, c'est compliqué. Les gens, tu les peux pas les gérer de la même manière. Mais super. En tout cas, moi, ça m'a fait gagner en maturité, un truc de dingue. Hein. Donc, c'était top.
Et là, tu rentres en France. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre ce changement complet de trajectoire. Et de se dire, maintenant, je veux être à la retraite. Enfin, on parle de retraite, d'indépendance financière, on va dire, parce que tu vas nous l'expliquer, mais tu travailles un peu encore. Mais comment tu fais pour dire, bon, c'est bon, maintenant, je vais être indépendant financièrement à tel âge. Je ne veux plus avoir de problème d'argent. Je ne veux pas avoir la contrainte de l'argent. Tu parles de liberté financière pour avoir tout mon temps et faire ce que j'aime dans la vie. Comment tu as fait comment il y a eu ce déclic, tu dis, à la Défense, mais comment tu l'as mis en place après?
En fait, alors j'avais commencé un petit peu avant, mais en gros, ce déclic, c'était... je pense que j'ai tellement galéré dans ma vie, en vrai, tu vois, quand je regarde les trucs. Ça a tellement été dur pour moi de... je sais pas, de trouver un truc où... Enfin, j'ai pas trouvé quelque chose où je m'épanouissais déjà. En fait, c'est très simple. En fait, tu vois, la critique de la liberté financière, c'est tous les gars qui vont dire « Écoute, moi, je m'épanouis dans mon taf, c'est génial, en plus, je gagne très bien ma vie. » Ben, moi, je dis « Jackpot !» Jackpot, sauf que je pense que... c'est une quête d'une vie d'arriver à ça. Et après, c'est temporaire. Ce qu'on oublie tout le temps, c'est que la vie, c'est très temporaire. Tu vois, on est dans des cycles. Tu vois, par exemple, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as quel âge d'ailleurs là maintenant?
25 ans.
Bon, bah, 25 ans, tu vois, tu n'es plus le même que quand tu avais 20 ans, quand tu avais 18 ans, je ne sais pas, ou quand 17, je ne sais pas, tu voulais sortir, tu voulais faire des trucs. Tu as 25 ans, tu as d'autres aspirations dans ta vie. Tu as 30 ans, et trois quarts de tes potes, ils ont des gamins, donc c'est les gamins. Enfin, tout évolue. Et en fait, ce qu'on. Moi, en gros, je serais tombé dans un truc où j'aurais été très bon et où j'aurais fait de l'argent avec. Je pense que je me serais peut-être pas posé la question de l'indépendance financière, tu vois. Peut-être pas. Enfin, si, parce que j'ai quand même mes trucs un peu antérieurs. Mais en tout cas, moi, je galérais tellement. Enfin, je me donnais tellement dans mon taf et je me rendais compte à quel point, en fait, c'était pas monétisé financièrement. Et je me disais, mais à chaque fois, dans chaque moment de ma vie, en fait, c'est un peu comme quand tu cours, tu vois, et que tu te donnes à fond. Moi, je me suis toujours donné à fond, tout le temps. Alors même quand j'étais en prépa et que je jouais à côté, alors je sais pas trop dans quoi je me donnais à fond, mais je crois que j'étais à fond quand même, tu vois. Que ouais. À la fin, je me suis dit, mais Victor, tu vas pas vivre toute ta vie comme ça, tu vas pas y arriver. Donc donne-toi le luxe de, et même pour moi, c'est devenu une nécessité, tu vois. Donne-toi la possibilité d'arrêter de travailler si tu veux arrêter de travailler. Et moi, je me connais. Et tous les gens qui me connaissent, ils me font, mais Victor, la retraite à 40 ans, c'est pas un truc pour toi. Tu seras jamais à la retraite à 40 ans. Et c'est vrai, je serai jamais à la retraite à 40 ans. Et je sais très bien pourquoi, parce que moi c'est le travail qui m'épanouit, c'est de bosser avec des gens. Moi je vis pour être avec des gens. Donc moi la plage, j'aime pas ça, hein. Chaque été on part toujours au même endroit avec ma copine. Moi je vais à la plage, je me pointe, je suis avec mon parasol, j'ai la peau hyper blanche, je peux pas être au soleil. Enfin, je me fais chier en vrai, tu vois. Peut-être que ça va évoluer, peut-être que moi c'est mes démons intérieurs, tu vois. Peut-être que j'en ai encore beaucoup, et je pense que j'en ai encore beaucoup qui me poussent à continuer à avancer. Mais pour moi là. En vrai, la retraite à 40 ans, c'est juste de faire ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de faire un break d'un mois, tu vois, moi, ça m'arrive d'avoir moins d'énergie pendant trois jours, une semaine, donc de pouvoir pas bosser si je veux pas, de pouvoir bosser comme un dingue si je veux pendant quelques temps. Enfin, tu vois, c'est vraiment d'avoir cette quête de liberté.
Ouais, c'est ça. En soi, la retraite, bon, c'est un peu marketing. Même moi, je sais pas le nom de l'épisode que je donnerai, mais c'est sûrement qu'il y a le mot retraite qui sortira parce que ça donne envie d'écouter, de lire. Mais le vrai truc, c'est être libre de dire non, être libre de « moi, je fais mon travail, mais j'aime pas ça, je me barre, je vais au Kenya à pile ou face ». C'est vraiment ça, je pense, la liberté financière. Et de plus… Parce que moi, c'est vrai que j'ai commencé à avoir cette idée-là, tu vois, pas longtemps après quand j'étais diplômé. Enfin, en fait, j'ai eu la mort d'un proche, je parle pas souvent de moi dans mon podcast, mais à cause du travail. C'était vraiment le travail, un des personnes les plus proches de moi. Très jeune, le travail l'a tué, trop de stress et… En y repensant, je me dis, cette personne-là n'avait pas les moyens de dire stop. Et je vois plein de gens autour de moi qui sont stressés, qui, là encore, quelqu'un dans ma famille qui me dit, genre, j'en peux plus du travail, j'en peux plus de mes managers, ils me mettent la pression, je travaille des heures et des heures, et au final, mon salaire, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, calculer mon salaire horaire. Et quand tu calcules ton salaire horaire, tu te dis, mais en fait, je gagne vraiment pas grand-chose. Puis toute la pression, toutes les maladies, toutes les ci, toutes les là. Mais donc, comment t'as fait pour mettre en place cette liberté financière qui allait arriver quelques années plus tard?
Alors, j'avais lu un peu ce qui se faisait aux États-Unis, mais je l'avais lu en diagonale, donc en gros, j'avais rien compris, mais c'est pas grave, parce que je lis beaucoup de trucs en diagonale. Hein. J'ai commencé à investir au tout début dans l'immobilier, un premier appart. J'ai acheté de plus en plus d'appart, donc pour rentrer dans le détail sur comment j'ai fait, pour arriver à un stade où j'avais beaucoup d'appartements. Après, j'ai lancé des business, j'en ai racheté en plus de mon taf. En parallèle de ça, je suis allé bosser dans les startups et à chaque fois j'augmentais mon salaire. Donc j'allais dans les startups qui avaient les moyens de me payer plus cher et il fallait bosser encore plus. Mais en réalité, je me suis remis dans un truc un peu hardcore. Hein. Donc je faisais que ça.
Ouais.
Et
parce que ça, c'est un truc, tu le dis de manière assez simple, genre j'ai acheté des apparts.
Ouais.
j'ai l'impression que c'est déjà une énorme montagne d'acheter un appart. Toi, je sais pas combien d'apparts t'as. Comment tu te lances en disant je vais acheter un appart comme ça, c'est si simple pour toi?
C'est aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, pourquoi? Parce que, je sais pas, un truc auquel tu es habitué, je sais pas si tu es habitué à faire du stand-up, tu vois.
Ouais, tu disais dans Martin Gall, les podcasts aussi, ouais. T'as l'habitude. Mais la première fois, comment
La première fois, c'est galère.
Ouais,
c'est hyper galère. Première fois, si tu veux, c'était il fallait que je trouve un appart pour. J'étais avec un. C'est quand j'étais à l'ESCP et fin de l'ESCP et du coup j'ai un pote qui était en école d'ingé. On s'est dit viens, on se met en coloc. On avait essayé de trouver une coloc à Paris, impossible. Enfin, on se faisait rejeter partout. Et après, je me suis dit, je me suis rappelé de ce que j'avais lu en banque d'affaires, là. Et parce que j'étais en stage à l'époque en banque d'affaires. Et je me suis dit, j'étais en train de. Enfin, un peu compliqué, quoi. Et du coup, je me suis dit, autant acheter, quoi.
OK.
Et du coup, on a acheté notre premier appart pour se mettre en coloc dedans.
OK. Ah, donc là, c'était la galère. Enfin, t'as appris, en fait, sur le tas, quoi. T'as juste. En fait, tu fonces.
Bêtement.
Après, t'as la galère, mais tu verras.
Mais vraiment, bêtement, tu vois. Simple.
Okay.
Ouais, après, faut avoir un tempérament de. Je pense que c'est la résilience, tu vois. J'ai quand même l'impression, et c'est un peu les entrepreneurs qui ont ça. J'ai quand même une jauge interne où je fais attention au risque, mais moi, en vrai, tu vois, on serait rencontrés il y a 10 ans, on serait sortis ensemble. Moi, j'aurais été l'espèce d'abruti qui monte sur l'échafaudage parce que le mec a oublié l'échelle, tu vois. Et on serait monté dessus et puis on serait monté tout en haut de l'immeuble. On s'est dit, putain, c'est vachement bien. Et on aurait découvert que, je sais pas, il y avait un parc à côté et on s'est dit, tiens, on pourrait aller dans le parc, tu vois. Et mais je suis vraiment, j'ai pas peur de grand chose, sauf quand je fais des sports extrêmes. Ça me fait très peur. Ouais. Mais sinon, j'ai pas. Parce que quand tu connais des trucs un peu hard dans ta vie, un peu hard, il y a des gens qui ont vécu des trucs beaucoup plus hard que moi, mais à un moment, tu as une telle. C'est une énergie de survie où tu as une telle niaque que tu es là, non mais fuck off, tu vois. Moi, dans ma vie, on m'a tellement répété effectivement que j'étais nul tout le temps qu'à un moment, tu es là, tu sais, les gens, après, tu regardes, tu dis écoute, ok. Et après, ta vie, tu la vois différemment. Tu te dis, les opportunités, tu vois, moi. Le taf que j'ai récupéré chez Bankin, c'est à un moment, je quittais un autre taf dans une autre grosse startup. Et je me suis dit, maintenant j'ai une boîte qui a du sens, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message au CEO de la boîte. Salut Johan, j'adore ta boîte. Voilà moi ce que je sais faire. Je pense que je pourrais faire un truc cool dans ta boîte. Dis-moi. Et il m'a répondu. Et après, en fait, quand on sait où se placer et qu'on a du culot, ça fonctionne assez bien.
Ouais, c'est ça, en fait. Tu veux un truc, tu vas le chercher. Tu ne te poses pas 500 000 questions et tu le fais, quoi.
Ouais, et tu taffes. Ouais, t'essaies de maîtriser. En fait, t'essaies à chaque fois de te dire. En fait, il y a quand même un truc. Moi, j'ai beaucoup été drivé par l'ego, c'est de te dire où est-ce que j'en suis, tu vois. Rappelle-toi quand même que, si t'as la gueule d'un mec qui a 20 ans, t'as la gueule d'un mec qui a 20 ans. Donc, ne t'attends pas à ce que les gens d'en face te voient différemment qu'un gamin de 20 ans. Donc, dis-toi, ok, qu'est-ce que je fais? Comment je fais face à ça? Je sais qu'il va me voir comme ça. Comment je fais face à ça? Est-ce que là, ce sujet-là, je le maîtrise un peu? Ok, je peux bien bluffer le truc, mais à un moment, il me faut un minimum de compétences. Donc, je taffe le truc. Et en fait, en faisant comme ça, tu vois, en surfant sur la compréhension de l'autre et qu'est-ce que tu dois faire au minimum, tu peux aller super loin. Tu peux vraiment aller super loin. Enfin, tu vois, NYU organiser le truc, je crois que c'était les 70 ans d'NYU au Sénat. Et franchement, c'était top.
C'est énorme.
Et tu vois, même aujourd'hui, je sais pas, ça doit être le job rêvé de gens, tu vois. Et après, tu tombes sur des gens. Après, c'est les gens qui te donnent les opportunités aussi. Donc, il faut tomber sur des personnes qui vont te faire confiance, qui vont identifier en toi, je sais pas, se projettent en toi. Et tu vois, moi, c'était une femme qui s'appelait Raissa et qui bossait chez NYU. Et c'est elle qui m'a vachement coopté pour tous ces trucs-là. Parce qu'elle me faisait vachement confiance et on a fait des super trucs ensemble.
Ouais, il y a de l'audace et de l'humilité, en fait. ça va aussi te mettre à ta place, quoi, savoir où tu es et où tu dois aller, comment faire pour y aller, donc travailler et à côté de ça, taper aux bonnes portes. Et donc, tu dis donc l'immobilier, tu parles de side business, donc créer ouais. des entreprises à côté de ton travail. Et ensuite, y a la bourse aussi, c'est le troisième pilier des FIRE.
Ouais.
Donc, ouais. Vas-y. Comment t'as commencé tout ça d'un coup t'as investi dans un appart, t'as fait ton side business, bah, t'avais déjà créé des business avant et t'as mis en bourse comme ça?
Alors j'avais déjà créé des business mais qui m'ont rapporté de l'argent pas trop. Un petit peu, mais en vrai, parce que le nerf de la guerre quand même, hein, side business, c'est que ça te rapporte plus que si tu faisais autre chose, quoi. Alors du coup, j'ai commencé par l'immobilier. J'ai fait pas mal d'immobilier. À l'époque, je dépensais quand même encore pas mal d'argent. Après, j'ai compris. Alors, c'est pas parce que j'ai pas répondu à tes questions sur le Kenya, mais j'ai compris que il fallait quand même commencer à un peu épargner, tu vois, et que le taux d'endettement c'était important. Et du coup, là, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, ce que je faisais pas avant, un peu, mais mon gros changement était plus tard. Et après ça, j'ai commencé aussi à lancer des business. Et un de mes premiers business, c'était un espace de coworking dans Paris. Et à faire quelque chose de rentable. En fait, j'avais pas le choix parce que c'était une boîte qui était en faillite, c'était tout un truc. Donc, j'ai lancé un business à ce moment-là. Après, j'en ai lancé d'autres. Enfin, j'en ai racheté d'autres et j'ai continué. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dédoublé ma vie. Donc, en fait, il y a un truc que les autres voyaient pas forcément. Et moi, je me rendais pas compte de la pression que je me mettais. Mais en gros, il fallait se dire que la journée, je bossais en C-level, donc direction de start-up. Et la nuit et le week-end, je taffais sur mes investissements immo et sur mes autres business.
Ouais.
Et là, j'avais un rythme, j'avais une sacrée réputation à l'époque parce que, enfin, moi, je me levais à 4h du mat. Enfin, en plus, je parlais jamais des business que j'avais à côté parce que tu vois, c'est un mélange des genres, mais je me levais à 4h du mat, j'arrivais au taf à 6h, je rentrais, alors, heureusement que je quittais tôt le taf, donc je quittais le taf à 18h40, 19h, et le soir, j'enchaînais. Et si t'as pas, heureusement que ma copine Delphine là, tu vois, elle supportait le truc, mais compliqué quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça pas mal de temps. Hein. J'ai fait ça, pas à ce rythme-là tout le temps, mais ça pendant 10 ans quand même.
Mais aujourd'hui encore, même si tu as atteint ta premier seuil de liberté financière, j'ai l'impression que. Alors, faut savoir que Victor, mes stories sur Instagram et sur le groupe. Moi, à la base, j'étais sur le groupe WhatsApp. Là, j'ai pas suivi encore sur Discord. Mais tu mets des stories, des vidéos à, je sais pas, peut-être 6 heures du mat. Des fois, je vais me coucher au Canada, que je vois que tu es déjà levé en train d'aller faire quelque chose. Donc aujourd'hui, tu travailles encore quand même beaucoup, même tout le temps, j'ai l'impression.
Ouais, c'est rien pour toi. En fait, j'ai pris ma retraite en juin dernier. Et alors, quand j'ai pris ma retraite, je gagnais en revenu passif, si je me le versais, 12 000 euros par mois. Okay. Et mon objectif, c'est 8 000 euros par mois. Sauf que je prends un peu de marge parce qu'on ne sait jamais. Bah, voilà, Covid, moi, mes business ne sont pas Covid-proof. Du coup, je me suis retrouvé du... ouais, voilà, tu ne veux pas Covid-proof. Vous savez, maintenant, c'est mainstream, hein, tu vois, tout le monde le dit maintenant. Et en fait, je me suis retrouvé avec 750 euros par mois parce que tous mes 7 business étaient dans le négatif. Et dans l'immobilier, bon, j'ai un peu perdu sur l'immo, mais ça va. Et en plus de ça, je venais de faire mon dernier investissement. C'est le dernier der, tu vois. Et moi, mon dernier investissement, c'est un immeuble en banlieue parisienne, 2 350 000 euros, tu vois. Ouais. Et là, je me retrouve à prendre ma retraite. Tout va bien, tu vois. Tout va bien. Je suis content. Puis je savais ce que j'allais faire après. J'allais aider les autres avec le mouvement FIRE. On allait avancer. Moi, ça me faisait plaisir. J'ai plus besoin de thunes. J'étais bien. Tout était posé dans ma vie. Alors, pourquoi j'avais besoin d'autant de 8 000 euros? C'est parce que moi, dans ma projection, donc aujourd'hui, j'ai pas d'enfants. Et moi, dans ma projection, c'est d'avoir 2 enfants à Paris. C'est comme si demain, vous voulez avoir 2 enfants à New York, bonne chance. Je pense qu'il vous faut 25 000 dollars par mois à Manhattan, pour que ça marche. Ouais. Enfin, 25 000, j'exagère un peu, 20 000 dollars. Bref, donc j'avais atteint ça. Et puis là, en fait, mes business sont un peu pété la gueule. J'avais 7 personnes qui bossaient pour moi, maintenant, j'en ai plus que 2. Et j'avais mes espaces de coworking galère. Donc en fait, je me suis retrouvé... Enfin, la vie, elle revient toujours te chercher, tu sais. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation où il a fallu que je m'étoffe un peu. Et que je remette les mains dans le cambouis. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et même là, aujourd'hui, en fait, je me suis fixé quand même pas mal d'objectifs qui étaient venus pour le livre. Donc, il fallait que j'écrive le livre. J'avais des trucs quand même à sortir. Et du coup, j'avais quand même gardé un rythme assez important. Je pense que le vrai truc à faire, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un coach ou un psy ou je sais pas quoi. Je vais aller le voir jusqu'à ce qu'il m'explique comment m'apaiser dans ma vie, tu vois. Et réussir à, que j'arrive moi à trouver, à comprendre pourquoi je fais tout ça. Et je pense que c'est la même problématique dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et juste me dire, écoute, Victor, relax.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu sais, même aujourd'hui, hein, si je prends, tu me verrais au quotidien, c'est compliqué. Je pense que je pense que le nerf de la guerre de tout le monde, c'est de réussir à apprendre à se comprendre et à se détendre, tu vois. Tu vois, moi, j'ai du psoriasis, qui est un truc de stress, je pense très fortement. J'arrive pas à m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que je suis trop stressé, je suis accro au stress. J'ai arrêté le café déjà, mais et je suis dans un truc, on a tous des trucs nocifs. Mais moi, mon truc nocif, c'est moi-même, quoi.
Mais c'est quoi ta peur, ton stress, c'est quoi? C'est tout perdre, c'est de perdre tout ce que tu as fait quoi?
Bah non, parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est assez marrant. Alors, j'étais vachement mal quand il y a eu le premier Covid, parce que je perdais quand même entre 20 et 30 000 euros par mois. Ouais. Et j'avais pas de soupape, pas de truc. Non, je pense que j'ai toujours le même problème qu'avant. En fait, je pense que j'aime la vie, je pense que j'ai envie de croquer la vie et je pense que j'ai encore envie de me prouver à moi-même que je peux faire des trucs, sauf qu'à chaque fois, je décale ce que je me dis que je vais me prouver à moi-même. J'espère que c'est à moi-même, déjà, je suis pas sûr, ou si c'est encore social, ça risque d'être social. Et à un moment, il faut que je me dise, écoute mec, avant que mon corps me le dise, il faut que je me dise, écoute mec, relax et je sais pas, profite du moment présent, quoi. Et moi, je pense que j'ai pas réglé je pense qu'il y a des problématiques comme nous tous, hein. D'ailleurs, c'est tous ceux qui se retrouvent en psychanalyse ou chez des coachs. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait commencer beaucoup plus tôt. Mais si tu prends les gens qui ont 40 ans, à mon avis, à 80%, ils sont en train de régler leurs problèmes parce qu'ils se rendent compte que, ouais, ils ont des vrais problèmes, tu vois. Et moi, ouais, c'est juste de me dire, apprends à te détendre et apprécie ça. Mais en vrai, en fait, moi, c'est un intérêt d'être comme moi, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, quoi.
Ouais, c'est que tu fonces partout, tu vas partout, mais à côté de ça, j'imagine que ça doit être un stress monstrueux. Et dans le livre, tu cites, alors, j'arrive pas à être, Mac Cohn, K-E-O-W-N, je pense, Mac, un auteur de livre. Et tu dis que cet auteur dit que plus on a de choses, plus on possède de choses, plus on a de stress. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai interprété. Je sais pas exactement la citation. Toi, tu as quand même je ne sais combien de side business, tu as je ne sais combien d'appartements. Alors, peut-être que tu possèdes pas grand-chose dans ta vie perso, mais dans ta vie pro, si je peux l'appeler comme ça, tu possèdes quand même beaucoup de trucs. Est-ce que c'est pas ça aussi, le stress?
Ouais, je pense pas. En fait, il y a un moment où on s'en rend plus trop compte. C'est comme l'habitude. Je pense que là, aujourd'hui, c'est pas pour... Tu prends, je pense, beaucoup de personnes, tu les mets à ma place, mais elles sont mortes en deux jours, si elles veulent faire face aux obligations. Parce que là, il faut avoir un degré de je m'en foutisme énorme, hein. Parce qu'il y a des trucs. Moi, ma journée, ça peut être. Tu vois, là, j'ai plus que deux personnes qui bossent pour moi. Ça va être le chauffe-eau qui ne marche pas dans mon espace de coworking à Ivry. Ça va être un client qui ne me paye pas, qui me doit 15 000 euros et qui commence à engueuler les gars qui bossent pour moi. Et à un moment, tu vois, ne serait-ce qu'une situation dans ma vie sur certains sujets, ben ouais, c'est compliqué. Je pense que ce n'est pas agréable à gérer, vraiment pas. Mais moi je l'ai cherché, sinon je serais pas là où j'en suis. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, là ça fait tellement de trucs, tu vois, j'ai plus de 15 apparts, tu rajoutes un immeuble en plus, dans l'immeuble t'as 19 places de parking, t'as un autre coworking à côté en plus, mes business normalement, je sais pas, j'en ai 4 ou 5, ils font 1 million de chiffre d'affaires normalement, normalement j'ai des gars qui bossent avec, enfin des salariés, voilà. En fait il y a un moment, et d'ailleurs c'est une grosse critique, hein, du mouvement FIRE. Surtout quand tu le fais avec l'immobilier, c'est quand tu le fais avec l'immobilier, tu deviens gestionnaire d'appartements, tu vois. T'as tellement de locataires qu'en fait tu passes en vrai non, mais tu passes pas mal de temps à le faire. Mais là aujourd'hui, ouais. Moi le seul truc, la vie en fait, il y a un tel décalage maintenant, tu vois. Si t'es salarié dans ta boîte, que tu t'es dans une bonne boîte, t'es content, tu gagnes bien ta vie et t'es moi, je pense que c'est impossible qu'on se comprenne. Mais c'est littéralement impossible qu'on se comprenne. Mais je pense que, et même mes potes, en fait, quand ils me parlent, en fait, je pense qu'ils ils comprennent pas ma vie, tu vois. Et moi, ça sert à rien que je leur explique. Et ils peuvent pas comprendre plein de trucs. Tu vois, quand moi, il y a mon téléphone qui sonne, bah, de temps en temps, je dirais, je sais pas, une fois sur 10, c'est vraiment urgent, tu vois. Et c'est vraiment un truc de merde, tu vois. Enfin, c'est urgent. Après, il faut tout dédramatiser, tu vois. Mais tu vois, demain, moi, je serais Bernard Arnault demain, je serais un foutu de vivre sa vie non plus, tu vois. Je serais Xavier Niel, je serais incapable de vivre ça. Je serais un sportif de haut niveau, je serais incapable de vivre ça, tu vois. Enfin, chacun son truc. Puis tu t'entraînes pour vivre la vie que tu veux vivre, quoi.
Ouais. Et là, toi, tu veux accomplir quoi maintenant? Tu parles beaucoup d'écologie. J'ai l'impression dans le livre, j'ai l'impression que c'est une cause qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Là, le Covid va peut-être passer. Imaginons que tu es side business, que tout aille bien. Tu as cette liberté. Qu'est-ce que tu voudrais accomplir?
En fait, expliquer aux gens que réussir facilement à faire que... c'est un peu pour ça que le frugalisme, maintenant, ça m'intéresse. Bon, au début, je n'étais pas là-dessus, mais que, en gros, en vrai, il n'y a pas 36 000 solutions, moi, de ma compréhension des choses. Et que si nous tous, on ne commence pas à moins consommer, ça va être compliqué. Et si on n'a pas tous la liberté d'esprit de se dire qu'autre chose est possible, ça va être compliqué. Le modèle aujourd'hui, il est foutu, hein, en vrai. Le modèle aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que c'est ceux qui ont 20 ans ou 17 ans aujourd'hui, je pense que leur vie... Enfin, moi, tu me mets 17 ans aujourd'hui, avec les problèmes que j'avais à l'époque, franchement, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait, tu vois, mais compliqué. Parce qu'en vrai, dans 100 ans, quand tu regardes les trucs, c'est chaud. Aujourd'hui, on n'a toujours pas compris... tu te dis à quelqu'un qu'il n'a plus le droit de prendre sa voiture tous les matins où il est tout seul dedans, c'est la fin de sa vie. Tu dis à quelqu'un qu'il ne va pas avoir de retraite, c'est la fin de sa vie, sauf que nous, on l'a intégré, tu vois. Tu dis à quelqu'un, ça va être galère et en plus, ton espérance de vie sera inférieure parce que tu vas te choper des cancers. Enfin, en gros, quand tu regardes le sujet, c'est, je pense qu'il faut accompagner les gens en douceur et il faut le faire d'une méthode où les gens le choisissent.
Bien sûr.
Tu peux choisir, c'est comme le confinement, tu vois. Si l'État nous fait croire qu'on choisit le confinement, ça va mieux marcher pour nous. Mais là, le gros boulot qu'on a à faire à l'avenir... En fait, moi, je suis assez pragmatique, donc je risque de traumatiser beaucoup de personnes, mais sur un autre podcast, on m'avait posé la question, « Ouais, Victor, mais est-ce que tu ne vas pas regretter d'avoir vécu la vie que tu as vécue en bouffant pour que dalle, en épargnant beaucoup si tu crèves demain ?» Moi, je suis très content de la vie que j'ai vécue, hein, parce que je l'ai vécue à fond, et je regrette rien. Hein. Et là, tu vois, même aujourd'hui... où je me dis quand même que je devrais vraiment prendre ma retraite, tu vois. En fait, le vrai truc, c'est d'un point de vue pragmatique, soit on décide qu'on n'en a rien à faire, et en gros, moi, j'ai pas de gamin, t'as pas de gamin, ça va très bien se passer, puis on s'arrête à ce moment-là et on laissera les, 1000 personnes qui vont réussir à vivre plus tard sur la Terre très bien. Soit on décide qu'on va faire à peu près un truc tous ensemble, mais là, il faut remettre tout en cause. Et moi, le premier, hein, ça va être compliqué pour moi, tu vois. Moi, à la base, j'adore manger de la viande. À la base, moi, voyager, j'aime bien aussi, même si j'en faisais pas beaucoup parce que je travaillais beaucoup. Et parce que c'était aussi par conviction écologique. Mais bon, en vrai, on a tellement été habitué à vivre un truc qui n'existe pas. Tu vois, moi, j'ai un MacBook Pro, tu vois, c'est le truc que je t'appelle. C'est une aberration. J'ai même 3 micros, tu vois. Là, c'en a un de plus que j'ai ressenti. J'en ai 2 autres parce que je fais un podcast aussi, enfin, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est tellement habitué à ça. Comment tu veux dire non? Tu sais, nous, on est très, très basique, hein.
Ouais, c'est compliqué en plus, comme tu dis, parce que t'as toujours envie de plus. Alors moi, c'est que je suis un peu comme toi, j'ai de la chance niveau vêtements. Peut-être par le fait que je voyage beaucoup, bon, je pollue beaucoup. Mais j'aime bien que tout tienne dans ma valise. Donc, essayer d'avoir le moins de vêtements possible, etc. Mais par contre, j'ai toujours l'envie d'avoir un iPhone. Moi aussi, je t'appelle avec un MacBook Pro. Et tu as toujours envie d'avoir l'upgrade. Et tu le dis dans ton livre, d'ailleurs, et tu le dis très bien, c'est une course infinie. Ça ne s'arrête jamais. Tu as toujours envie de plus, puisque le principe du désir, c'est que quand tu l'as atteint, tu en veux un autre. Donc, c'est un sujet qui est compliqué. Hein. Et on n'a plus beaucoup de temps, mais par rapport à ce que tu dis, quand même, tu es un exemple, parce que rien qu'en lisant ton livre, ceux qui n'ont pas lu ou ceux qui ne te connaissent pas vont se poser la question de qu'est-ce que vaut mon temps. C'est vraiment bête, mais calculer son salaire horaire, calculer, tu l'expliques aussi dans ton livre, mais calculer tout ce que le coût du travail, le transport, bon plus maintenant, la santé, le kiné, parce que t'as mal au dos, parce que tu te tiens toute la journée mal assis, ce coût-là, se poser des questions par rapport à ça, vivre avec moins, tu dis que tu travailles, t'as 50 vêtements ou 60 vêtements, je crois, avoir beaucoup moins d'affaires, et à ce niveau-là, je pense que t'es un exemple et que avec ton livre, avec ce que tu dis, tu vas influencer plein de gens qui vont se poser des questions. Et je trouve ça génial. J'ai 2 questions pour finir parce qu'après il est tard en France. Après je vais te laisser. La première question. Alors avant c'était l'année dernière, c'était quel conseil donnes-tu aux jeunes que t'étais? J'ai décidé de changer, c'est quel conseil tu donnes à Victor là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à toi-même maintenant?
Je pense que ce que je me donne comme conseil aujourd'hui, c'est de faire ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire de prendre tout, au moins, alors je vais être un peu extrême, mais j'aimerais au moins, enfin, prendre toutes les matinées pour moi pour juste ne pas bosser, quoi. Et juste être cool avec moi-même et arrêter de me fouetter. Mais clairement, c'est-à-dire ne pas me lever, mais clairement, tu vois, juste me lever ou pas. Et lire un bouquin, ne pas aller sur les réseaux sociaux, sur tous ces trucs, et juste me dire, écoute Victor, détends-toi, détends-toi, c'est bon mec, t'as plus, tes trucs tournent, tu vois, à la limite, je sais pas, je revends un truc, je sais pas, mais j'arrête, tu vois, ça va, tu vois. Et au lieu de tous les jours me dire, tu sais, moi je me lève, je suis un guerrier, hein, je me lève et je suis là, attends, attends, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois régler, et juste, mais keep cool, sinon moi je vais finir comme tapis, hein. Je vais avoir un cancer, je sais pas quel âge. Non, mais c'est vrai. Je vois le truc gros comme une maison. Et vu que je suis peu en écoute avec mon corps, et c'est ce que j'essaie de changer aujourd'hui, tu vois, j'ai encore une cheville à moitié pétée et que j'essaie de récupérer avec un kiné, là, encore maintenant. Je n'ai toujours pas réglé ça. C'est juste de. En fait, moi, je ne pensais pas que c'était possible de vraiment se détériorer le corps en ne faisant pas des trucs physiques extrêmes, tu vois. Et juste parce que tu te mets une telle pression avec ton mental que et tu te mets dans des telles situations où tu n'arrives pas à prendre du recul. Alors, ça peut te faire évoluer dans le temps. Maintenant, moi, je prends beaucoup de recul sur plein de trucs. Mais quand tu n'as pas les armes pour, putain, tu prends tout physiquement, tu vois. Et moi, je pense que j'ai pris trop de trucs physiquement parce que je n'étais pas assez mature pour prendre du recul. Et maintenant, ouais, j'en prends peut-être un peu plus. Mais relax, tu vois. Tu sais, moi, le truc qui va être vraiment absurde, c'est quand tu vas dans les journaux, quand je vais avoir 40 ans, c'est-à-dire dans 8 ans, tu vois, des articles qui vont sortir. Ouais, le mec a trop bossé alors qu'il était à la retraite, tu vois, un truc trop con, tu vois. Mais
L'auteur
bon,
du livre La retraite à 40 ans,
en fait, continue à bosser. C'est ça, tu vois, il était à la retraite, le mec, en fait, il a pas pris sa retraite, mais tu vois, comme tous les faits divers, moi, j'ai une tête de faits divers, tu vois.
Il a fait un burn-out.
Il a fait un burn-out de retraite, tu vois, mais un truc, tu vois, le burn-out, je pense que, et le mec il est resté, tu vois. Et le pire, c'est je suis tellement sur des trucs, tu vois, j'ai tellement pas réglé mes problèmes que ouais, tu vois. Et on risque de se rappeler, je sais pas, dans 6 ans, et je sais pas ce que j'aurais inventé comme truc, mais tu me rediras, bah, Victor, qu'est-ce que t'as fait? Je vais dire, bah tiens, regarde, je fais ce truc-là. Et tu vas me dire, mais Victor, qu'est-ce que t'as fait, quoi?
On fera un nouvel épisode pour voir voilà. Si t'as suivi ton conseil. Et la dernière question, bah, c'est les 3 valeurs de Victor. C'est quoi les 3 valeurs qui te drive et qui te permettent d'avancer?
Alors, je pense que, alors ça va paraître, mais très absurde, mais dans mes valeurs, je pense qu'aujourd'hui, j'assumerais de dire publiquement que je mets l'amour. Et en fait, c'est juste genre de. Alors c'est assez paradoxal, mais c'est juste de. Enfin, de donner. Parce que en un mot, je pense qu'il faut me dire en une phrase, mais c'est tu donnes des choses positives aux gens qui t'entourent. Voilà. C'est comme ça que je dirais, et vraiment tu le fais pour le bien des gens là où ils en sont dans leur vie, tu vois. Moi je suis premier à te dire, tiens, t'as pas acheté ton premier appart, viens on en achète un, mais non, c'est pas forcément ce qu'il te faut, tu vois. Donc t'as ça. Un autre truc, c'est la transparence. Alors la transparence, pourquoi? Parce que je pense que notre monde il gagnerait, mais tellement si on avait accès à beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, les pays scandinaves le font plus, l'Angleterre le fait plus. Mais là aujourd'hui, quand il n'y a pas de transparence, quand les trucs sont pas transparents, quand toi t'as pas les chiffres, tu vois. Peu importe le niveau que tu as, la compréhension que tu as d'un sujet, moi j'aimerais bien challenger des trucs. Tu vois, j'aimerais bien vérifier des trucs. Mais vu qu'il n'y a pas de transparence, je ne sais pas ce qu'il y a. Et le dernier, je dirais que c'est. Alors, j'hésite entre deux, mais je vais plutôt dire le. Allez, le travail. C'est bête, hein. Mais c'est. Bah, en fait, c'est apprentissage slash travail. C'est si tu veux. Enfin, je sais pas. Déjà, trouver ta voie dans la vie. Si tu veux. Comprendre des choses, si tu veux faire quelque chose, en fait, il faut te donner à fond dans un sujet. C'est peut-être pas le travail, mais c'est te donner à fond, peu importe le sujet. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de jugement, mais il faut y aller, quoi. Et en fait, il faut s'accrocher. Et apprentissage, slash travail, slash résilience, il faut vraiment continuer à y aller. Et ça, c'est un truc qui me drive. Moi, j'ai toujours été comme ça, je pense que je le serai toujours. Et enfin, je sais pas. Hein. Mais tu vois, c'est quoi qu'il arrive. Il y a un moment, enfin, c'est un cercle vicieux tout ça, parce que plus tu fais du sport, plus tu vas aimer le sport, plus tu vas progresser, plus tu creuses un sujet, plus tu vas aimer le creuser, plus tu enfin, à la limite, tu vas l'aimer, quoi. Moi, je connais très peu de personnes qui ont un déclic dans leur vie, ils se sont dit, voilà, je vais faire ça, et ils sont devenus bons là-dedans, et ils ont trop kiffé, et toute leur vie s'est bien passée. Non, non, c'est en fait, c'est un moment, ils ont décidé de creuser, je sais pas moi, le droit fiscal de je sais pas quoi, et ils se sont mis à fond, et à la fin, à force de s'y mettre à fond, d'avoir galéré, bah, ils ont aimé, et puis maintenant, ils sont bons, ils sont très contents de leur vie, tu vois. Donc, en fait, c'est un truc un peu bizarre.
C'est faire, en fait, c'est juste faire.
Faire.
On n'a pas travaillé ce que travailler, ouais, on peut penser de job, non, c'est juste faire et
faire.
Être dans l'action, quoi.
Faire, en tout cas, ouais.
Transparence, amour et faire, on va dire, travail. Merci beaucoup, Victor. C'était, merci pour ton honnêteté aussi, hein, parce que c'est, on a l'impression qu'avec toi, pour le coup, tout est transparent, tu nous racontes tout. Donc, c'était super. Merci beaucoup, Victor.
Merci, Marvin.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.